En fait, voilà, donc j'étais d'ailleurs étonné, nos revues sont nées à peu près au même moment, en 2016. Le projet de Mémoire en jeu, c'était effectivement de pouvoir aller interroger les enjeux de mémoire plus généralement contemporains, d'où d'ailleurs la question du dernier numéro qui porte sur les mémoires contemporaines de la guerre d'Algérie. Et plus spécifiquement, on peut dire contemporain au sens où depuis les 3-4 dernières décennies, les questions de mémoire sont extrêmement présente, pas simplement, on peut dire, à l'université, mais aussi dans nos sociétés, dans les discours politiques, dans les discours académiques, à travers la culture. Et donc, il s'agit plutôt de s'interroger donc sur la présence de ces mémoires du passé dans à notre époque. Alors pour interroger donc ces questions, Mémoire en jeu en fait essaye de rassembler beaucoup de disciplines, si ce n'est toutes les disciplines des sciences humaines qui passent à travers les numéros et qui viennent diriger des dossiers, mais aussi des acteurs culturels de la société et des enseignants. Donc de croiser aussi différents milieux de façon à ce qu'il y ait, à ce qu'il puisse y avoir des échanges. Alors à l'origine même, l'idée était de qu'il y ait, on peut dire que une espèce de forum qui se dessine à partir de mémoires en jeu, où puissent s'échanger ces paroles, mais aussi où elles puissent se constituer, se produire. Hein. Plutôt paroles que discours, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors évidemment, c'est des projets qui sont à l'origine de la fondation de cette revue, comme à l'origine de fondation de beaucoup de revues. Hein, il y a un projet. Après, le projet, il est mis à l'épreuve de la réalité même de la vie de la revue, des relations entre ses intervenants, ses contributeurs et ceux qui essaient de la diriger. Donc, c'est toujours un peu le projet, il est aussi se réajuste au fur et à mesure. Hein, mais c'est un peu l'idée. L'idée, pas simplement, donc, ni forcément pluridisciplinaire, mais sortir aussi de l'université pour aller s'exposer aux paroles, aux points de vue d'autres acteurs et donc de la société. C'est aussi pour ça qu'en fait, bon, ce numéro est un peu atypique parce que c'est un numéro spécial, mais c'est aussi pour ça que la revue, en fait, a toujours une rubrique, le numéro ordinaire, on peut dire, de la revue, une rubrique actualité qui essaie de mettre en évidence combien les questions de mémoire sont présentes dans toute la société, à travers les arts, à travers des expositions, à travers des différents types d'actions. Après, vous avez un grand entretien, vous avez un portfolio, vous avez un dossier, vous avez des varias. Donc, dossier et varias sont le côté le plus académique de la revue, et des comptes rendus. L'évolution du rubriquage a fait que quelquefois, enfin, il y avait aussi d'autres rubriques liées au site, liées au lieu, mais finalement, on s'en tient à peu près à ça. Autre chose, c'est qu'en fait, on attache beaucoup d'importance à la photo. Donc, on a le même format, effectivement, aussi, c'est un autre point commun de sensibilité. Et donc, il y a le portfolio, il y a aussi des photos à l'intérieur. Et on essaie, là aussi, c'est un pari, parce que ce n'est pas facile à tenir indépendamment du portfolio, mais de faire que la photo ne soit pas réduite à de l'illustration. Alors, par moments, on est obligé, même moi-même, j'utilise la photo comme illustration, mais on essaie quand même, qu'on peut dire, dans l'économie générale de la revue, que la photo ne soit pas simplement d'illustration, mais au contraire, qu'elle mette en évidence l'image en tant que telle que porte une photographie, et de préférence en faisant appel à des photographes. Voilà. Donc voilà un peu le projet général avec cette idée de à la fois convoquer des photos, faire venir la culture, pas simplement toujours du discours académique, et de faire se croiser les différentes voix. Chloé, je te passe le relais.
Merci. Et en effet, on se retrouve sur beaucoup de points. Alors, sensibilité, sa particularité est qu'elle a été au départ pensée par un trio d'historiens. Clémentine Vidal-Naquet, Clémentine Vidal-Naquet, Christophe Granger, Hervé Mazurel et Quentin de Luermoz. Et il se trouve qu'il pensait à cette revue et que moi, j'étais en parallèle en train de monter une maison d'édition donc, qui s'appelle Anamosa, dans laquelle notamment Christophe Granger, qui est historien et sociologue, est publié. Que dans les recherches de... Moi, je les aidais à travailler le côté éditorial de la revue, comment diffuser cette revue. On avait vu différents éditeurs qui disaient super, mais il faudrait au moins 300 abonnés. Donc, par un geste de folie, je me suis dit, tant qu'on crée la maison, donc autant accueillir la revue. Et donc, les premiers livres de la maison sont parus en mars 2016 et le premier numéro de Sensibilité est paru en octobre 2016. Tu l'as dit, le format, oui, on est sur presque un A4 qui était pour nous plus qu'un clin d'œil aux actes de la recherche en sciences sociales. Alors Sensibilité, qui a un sous-titre Histoire critique et sciences sociales. Donc il s'agit là de prendre le sensible au sens presque de mode d'intellection du réel, qu'il soit contemporain ou historique. Et effectivement, comme l'a dit Yannick, d'être sur des thèmes qui peuvent être à la fois des thèmes du politique, anatomie du charisme, c'est d'actualité en ce moment. Peut-être que Valérie Pécresse devrait le lire. La chaire du politique, ou effectivement des lieux de l'intime, comme les sens de la maison, les paradoxes de l'intime et nos morts, des grandes thématiques qui nous traversent. Enfin, je pense au rêve, je pense à corso-paroxysme aussi, qui est beaucoup en écho avec la guerre transmise, avec et nos morts. Et alors, la revue par rapport à... une organisation classique de revues, je dirais, de sciences sociales, ne fonctionne pas par dossier. En fait, le titre est le thème. Donc, il traverse toutes les rubriques qui sont au nombre de 4. on a une rubrique recherche. Qui rassemble des articles, comme son nom l'indique, qui sont plus du type d'articles de recherche, qui sont autour de entre 50 et 70 000 signes, dans une écriture plus académique. On a une rubrique qui s'appelle « Expérience », là, qui accueille d'autres écritures, qu'elles soient portées par des gens qui sont en dehors de l'université, par des illustrateurs ou des photographes, par des chercheurs aussi qui s'essayent à une autre écriture, voire à une écriture plus personnelle. En fait, Julien Blanc, qui a écrit dans « La guerre transmise », a été mis dans la rubrique « Expérience », mais c'est aussi parce que c'est le jeu, J.E. qui s'exprime. Une rubrique dispute. Alors, l'idée de cette rubrique, c'est de susciter de vraies oppositions, essayer de recréer la disputatio il se trouve qu'on n'a jamais vraiment réussi à avoir une vraie dispute, en fait. Est-ce que les auteurs sont très... En général, c'est mesuré, donc on s'en sert comme un espace plutôt, ça devient un espace où les regards se croisent. Donc, la quatrième rubrique s'appelle « Comment ça s'écrit ?» qui est peut-être la seule où parfois où c'est le texte est hors du thème, parce que cette rubrique n'est constituée que d'un seul texte. Et là, on demande à des chercheurs de toutes les sciences sociales de revenir sur leur pratique de l'écriture, leur fabrique de l'écriture. Et c'est un endroit, d'ailleurs, comme dans l'ensemble de la revue, où on essaye, là encore, d'avoir un rapport sensible au... le premier, c'était Arlette Farge, en plus, qui nous avait... d'avoir un rapport sensible aux documents et à l'archive, et où, en général, on leur demande de nous fournir... Arlette Farge... c'est justement, c'est le brouillon du goût de l'archive qu'on avait pu, la première page était comme hiver, elle est glacée et les doigts s'engourdissent, elle avait rayé. Donc ça c'est la rubrique « Comment ça s'écrit ?» Et autre chose importante, comme dans « Mémoire en jeu », c'est en effet la place du document, de la photographie, ou de l'illustration, qui là aussi n'est justement pas prise comme illustration, mais comme écriture. Parmi les exemples, au fil des numéros qui m'ont beaucoup marqué, c'est dans le numéro Les sens de la maison, dont vous retrouverez un compte-rendu sur le site d'entrevue. C'est une expérience qui s'appelle Entre quatre murs, qui est introduite par Arlette Farge d'ailleurs, et dont s'est emparée une illustratrice qui s'appelle Pomme Bernos et qui s'intéresse en fait au rapport à la maison, au chez-soi, une fois qu'on sort de prison. Donc, apprendre à les matières qui ne sont pas les mêmes, le rapport à ce qui est ouvert, fermé, avoir un horizon, les couleurs. Et vous l'avez vu, on le voit sur les couvertures, la contrainte qu'on s'était fixée, c'était aussi la bichromie. Donc, c'est une couleur différente à chaque fois. Et ce que j'avais trouvé remarquable dans le traitement là, de Pomme Bernos, c'est qu'elle arrive avec ce bleu, le gris, le noir, ces motifs, en fait, à créer comme un univers de couleurs et de matières. Donc ça, c'est là aussi pour sortir aussi, pour croiser le monde de la culture. Et depuis Enomor, dans Enomor au miroir de l'argent et la guerre transmise, on a aussi... on essaye d'accueillir une nouvelle qui est commandée. Donc dans Enomor, c'est Maïlis de Kerangal qui a écrit un très beau texte qui s'appelle Un oiseau léger. Dans Au miroir de l'argent, c'est Omar Ben Lala. Et dans La guerre transmise, c'est Jean Rouault. Qui c'est moins une nouvelle qu'un texte de réflexion propre. On a un rythme à peu près semestriel, voilà, à peu près, sur la revue. Et donc le numéro 10 est sorti fin janvier.
Oui, En fait, un autre pari de la revue, bon, j'avais parlé de la question d'arriver à rassembler des voix de différents milieux, universitaires, acteurs culturels, sociétés et enseignants. Déjà au niveau du milieu académique, ce n'est pas évident de croiser, de faire s'entendre des littéraires avec des historiens, des sociologues, parce que, disons que, au début, finalement, tout le monde est prêt à s'entendre, mais finalement, ça se réalise pas forcément toujours sans qu'il y ait un peu de vaisselle cassée, et qui pourrait donner lieu à des disputes. Mais peut-être est-ce l'époque ou non. Souvent, c'est plutôt des évitements que des disputes. Donc, alors ça c'est un des premiers, le premier pari. Le deuxième pari de la revue, c'est et qui tient, je dirais, plus au fait qu'elle traite de questions de mémoire, c'est l'exigence d'une approche critique. Alors ça aussi, hein, c'est évidemment entre l'idée et la réalisation de l'idée, il y a des fluctuations à la marge. Et l'exigence de la dimension critique, c'est, ça part d'un principe, bon, qui m'est cher aussi et qui est propre à ma propre approche, hein, et l'expérience aussi des questions de mémoire. C'est qu'en fait, si on est depuis, bon, on va dire, trois, quatre décennies, de plus en plus immergé dans un discours mémoriel, c'est aussi que ce rapport au passé qu'on appelle mémoire, ou mémoire collective, on peut dire, mais qu'on appelle mémoire, qui n'est pas le passé, qui est un rapport au passé qu'on appelle mémoire, est de plus en plus normatif. C'est-à-dire que s'inscrit dans des discours, avec des lieux communs, avec un certain nombre de lieux, justement, qui ne sont pas simplement des lieux communs de discours, mais qui sont aussi des lieux où on se retrouve et où les gens s'entendent pour parler de mémoire, même si c'est sur des plans polémiques. Mais finalement, ça converge quand même vers un souci de faire mémoire et que ce souci-là, on peut dire en convergence avec la société, il est normatif. C'est-à-dire que il est normatif, ne serait-ce parce que ça converge vers de la reconnaissance, ça converge vers la nécessité de parler. Ça veut dire qu'à côté, il y a un certain sens qui est donné, un certain sens négatif qui est donné au silence ou à la non-reconnaissance, ou bon, etc. Donc, et précisément, cette orientation, cette tendance qui n'est pas simplement éthique, mais aussi esthétique, à une normalisation. Je dis esthétique parce qu'il suffit d'aller visiter. Vous prenez une dizaine de musées qui traitent de questions mémorielles et vous allez voir à quel point les scénographies reprennent les mêmes standards. Et ça, vous pouvez aller en Europe, en Israël, aux États-Unis, en Amérique latine, et même dans certains pays africains qui se mémorialisent. Donc on voit bien qu'il y a, bon, quand je parle de normalisation, il y a aussi standardisation. Évidemment, et pour en venir à notre dernier numéro, qui est le... En fait, nous, on est entre deux et trois numéros. Si on fait trois numéros par an, on s'épuise. Il n'y a que 4 minutes prête à exploser. Donc, on est plutôt sur deux numéros. Là, on en a fait trois. Trois et demi, même, puisque ça, c'est un numéro double. Mais, voilà, les mémoires contemporaines la guerre d'Algérie, c'est... Oh là, là, c'est parti. Le pouvoir, j'ai à peine touché, mais voilà. Donc, je voulais vous montrer de manière plus... J'y arrive pas. Voilà. OK. Bon. Les mémoires contemporaines de la guerre d'Algérie, c'était aussi ne pas aller chercher la perspective jusque dans les années 50, au moment où, évidemment, la guerre a éclaté, ou même on peut dire 40, d'aller interroger à partir des années 2000. En essayant de rassembler à la fois des voix et des contre-voix, à la fois finalement des porteurs d'une voix qui à l'origine, comme celle de Benjamin Stora, ont été novatrices, ont ouvert un espace de réflexion, comme dans les années 90 avec ses premiers ouvrages, mais qui aussi, comme finalement on peut dire un certain nombre d'historiens à partir du moment où ils se sont inscrits comme personnalité et comme œuvre dans le champ académique, peuvent aussi être sollicités par le politique. Bon, ce qui était le cas pour Benjamin Stora. Et donc des voix qui viennent dire un petit peu, qui sont presque un peu prescriptives sur les questions de mémoire, avec d'autres voix qui montrent que tout n'est pas si évident. J'arrive pas à le faire défiler. Ah si, voilà. Donc c'était aussi cette idée-là. L'idée était aussi d'essayer de convoquer des points de vue des deux rives. Alors pour cela, et avec notre attachement à l'image, il y a une commande qui a été passée à un photographe algérien qui a donné pour titre il y a trois portfolios, de ces trois portfolios, que reste-t-il ? Avec la commande, c'était, je lui avais demandé d'aller photographier des sites non mémorialisés. On sait bien évidemment que l'État algérien est tenu par non seulement un discours officiel, mais aussi un ensemble de représentations articulées à ce discours officiel et qui sont, de manière assez classique, héroïsantes et qui mémorialisent au sens le plus, on peut dire, le plus conventionnel du terme, une guerre d'indépendance dont eux-mêmes délivrent une interprétation. Et donc, il s'agissait bien évidemment de sortir de ça et de montrer des lieux qui ne sont pas patrimonialisés, mais qui sont des lieux aussi qui ont été marqués, hein, donc qui ne sont pas emblématiques, mais qui ont été marqués par les violences commises par l'armée française à tous les niveaux sur la population et le territoire algérien. Donc, il a fait un tour d'est en ouest et d'ouest en est pour photographier ces lieux. Et j'ai eu... ils sont décrits dans le... j'avais à cœur aussi que la langue arabe soit présente. Donc, c'est pour ça que les légendes sont aussi en arabe, ce qui a permis à notre graphiste de s'arracher quelques cheveux, puisque, évidemment, la première chose qui se passe quand il y a une mise en page, c'est que c'est à l'envers. Donc, c'est complètement inversé. Donc, il a fallu trouver le moyen de mettre des textes de façon à ce qu'ils soient lisibles et non pas... inversé, mais voilà. Donc, ce sont des petits paris et des petites exigences. Alors après, évidemment, voilà, le numéro se divise en deux parties, une histoire politique et société, avec des historiens, donc Benjamin Stora, Sylvie Thénault, donc qui est aussi une contre-voix par rapport à la position de Benjamin Stora. Un article de Malik Arhal et Fabrice Ricciputi sur les disparitions. Bon. Et un article de Giulia Fabiano sur les harkis. Et justement, donc tout à l'heure, je ferai la transition pour le troisième volet de notre présentation vers la position de Giulia, qui effectivement va se démarque et en cela est bien exemplaire d'une façon d'adopter un autre point de vue et une autre voix que les discours qu'on a l'habitude d'entendre sur les harkis. Et effectivement, c'est aussi très important parce que, bon... Disons que dans l'ensemble de ma connaissance de la guerre d'Algérie et de la mémoire de la guerre d'Algérie, j'avais effectivement la question des harkis qui était plutôt faible. Et qu'il est aussi important quand cette question est, on peut dire, on en a une connaissance plutôt faible, de ne pas tout d'un coup avaler les discours conventionnels et les interprétations, on peut dire, conventionnelles sur, et attendues sur ces questions-là. Et ça, ça répond, en ce sens-là, à l'exigence, on peut dire, fondatrice de la revue. Mais en même temps, voilà, c'est pas toujours si évident. Alors après, après il y a d'autres rubriques. Il y avait des rubriques qui s'attachent quand même aux lieux sur une région et aux lieux qui sont à la fois marqués, mais souvent marqués de façon presque invisible, comme ici un monument où vous avez dans la liste des résistants, puisque c'était un monument de la Seconde Guerre mondiale, un Algérien inconnu. Mentionné comme tel, puisqu'il n'a pas son nom. Vous avez des quartiers de villes qui ont été rebâtis, donc qui ont disparu, etc. Et puis, un tour d'horizon jusque, puisqu'on est dans le contemporain, jusqu'à une interrogation sur les traces de la mémoire de la guerre d'indépendance dans le mouvement Irak. Donc on est vraiment au plus proche, parce qu'évidemment, il y a aussi des traces. Autre portfolio qui n'est pas celui de Fethi Sahraoui, c'est celui de Nadia Marklouf sur les femmes résistantes. Alors, le format et l'épaisseur du numéro nous a permis d'intégrer ce portfolio qui jouait en diptyque dans un format, dans une mise en page à l'italienne. Mais comme le numéro est assez épais, on peut retourner assez facilement le numéro pour pouvoir regarder les photos. Donc c'est un portfolio entier. Là, je défile simplement les têtes d'articles. Évidemment, la question des jeunes, entre guillemets, et de la pédagogie. Avec aussi le dispositif pédagogique de l'ONAC. Donc là, on est plutôt dans le versant le plus conventionnel de la mémoire de la guerre d'Algérie, celle qui est, on peut dire, qui offre des cadres pédagogiques et dans laquelle, évidemment, on repère le plus facilement le discours tel qu'il peut être à la fois partagé par un certain nombre d'universitaires, mais aussi par des associations, des entrepreneurs de mémoire et évidemment des politiques qui y trouvent largement à la fois leur inspiration et leur façon de se présenter de manière honorable au regard de la guerre d'Algérie. Le portfolio. Il y a trois portfolios comme ça. Sur les lieux non mémorialisés. Ici, là, vous avez. Alors, il faut voir, par exemple, la ferme Améziane, c'est connu comme un centre de torture, qui était un endroit absolument redouté, redoutable. Il faut voir ce qu'il en reste. Il en reste rien. Il en reste des ruines. Et l'autre partie, littérature, art, la deuxième partie, littérature, art et culture, avec littérature, évidemment, donc sur des auteurs, sur des films, des études particulières, sur un roman contrefactuel qui fait imaginer ou qui part du fait que l'attentat du petit Clamart a réussi. Qu'est-ce qu'il en est ? D'ailleurs, j'ai réussi à trouver la photo de la DS-19 de Charles de Gaulle, qui a été réduite sous forme de miniature, bien sûr. Sur la littérature de jeunesse, et puis sur le rap. Donc on est aussi dans l'exigence de l'extrêmement contemporain, donc, et là du beaucoup moins conventionnel et même plutôt de la contre-voix, mais les traces de la guerre d'indépendance dans le rap, aussi bien du rap algérien du côté français que du rap algérien du côté Algérie, où on voit effectivement notamment que un des morceaux du rap reprend la bataille d'Alger. Alors, si vous voyez le film, la bataille d'Alger, film emblématique aussi, parce que c'est un film au moment duquel Boumediene a rassemblé les chars et a fait son coup d'État. Donc, ce n'est pas un film innocent, entre guillemets, et qui, précisément, a détourné dans le clip les images du film, mettant voilà, Alger 2016. Un article sur le théâtre, sur les regards borgnes, de Ben Faudil, sur le cinéma, dont on essaie de couvrir, et puis l'intervention de Katia Camelli, qui n'a pas fait un portfolio, mais tout comme, qui était exposée au Moussem et qui fait un très gros travail sur, enfin qui a fait un très gros travail, qui s'appelle Le roman algérien. Sur, on peut dire, l'histoire d'un kiosque qui, à Alger, rassemblait une quantité de photos de la colonisation jusqu'aux années les plus proches et postérieures à l'indépendance. Mais un travail d'artiste, donc pas un travail simplement documentaire. Un entretien avec Karima Lazali et Kader Attia, donc artiste. Karima Lazali qui avait écrit notamment le trauma colonial, donc psychanalyste, alors ça fera écho comme ça au numéro de sensibilité. Et de nouveaux portfolios, ici un champ de figues de barbarie qui était un lieu de prédilection dans la région pour torturer la population algérienne qui avait été arrêtée par l'armée française. Et puis une enquête sur l'édition avec Catherine Brun. Donc le dossier, il a été coordonné entre Catherine Brun, donc grand spécialiste littéraire des questions d'Algérie, Sébastien Ledoux et moi-même. Et puis on a terminé sur... j'ai fait un entretien avec François Gèze. François Gèze, qui est une figure emblématique, on peut dire, qui a repris les éditions Maspero, figure emblématique, on peut dire, d'une édition très marquée à gauche et anticolonialiste, et qui ouvre d'une certaine manière le numéro renversant la perspective de la guerre d'Algérie en disant, mais de toute façon, la guerre d'Algérie ne peut véritablement s'aborder que si on y ajoute une réflexion sur les désastres de la colonisation, pour ce qui était déjà largement entamé par Karima Lazali. Voilà. Donc le numéro se conclut ainsi, et sur notamment un monument que vous pouvez voir à Salins-les-Bains, si vous vous y rendez, d'un fameux général qui a perpétré un certain nombre de méfaits lors de sièges en Algérie en 1830. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'esprit à la fois de la revue et de ce numéro.
Je prends un peu la relève en présentant rapidement le travail que j'ai mené effectivement sur les harkis et peut-être en disant deux mots de la manière dont ces textes ont été conçus au moment où j'étais donc sollicitée par Philippe pour écrire un texte, en sachant que j'ai travaillé sur les discours et plutôt sur les héritages et identitaires et mémoriels de la guerre d'indépendance au niveau des descendants de Harki et des descendants d'immigrés algériens en France, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai commencé. Et j'ai continué à y travailler jusqu'aux années... disons que le dernier vrai terrain que j'ai mené... Je suis anthropologue, donc je le précise. Donc c'est une approche d'anthropologie et je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, c'est une des raisons qui permettent de mieux comprendre ce contre-discours qui émerge de mon texte par rapport aux dispositifs officiels ou aux représentations, aux discours officiels sur la mémoire. Et donc, mon dernier travail de terrain est ethnographique, daté de 2012, que je reprends rapidement, mais pas si rapidement que ça, dont je me sers en tout cas dans cet article, parce qu'après, j'ai commencé à travailler sur l'Algérie contemporaine, et donc sur d'autres dimensions qui sont toujours liées aux questions mémorielles et à la place de la guerre au récit de la guerre dans l'Algérie contemporaine, mais gardant quand même un œil et un oreille plutôt, enfin, et un intérêt assez, assez affirmé pour tout ce qui touchait les mémoires de la colonisation et de la guerre d'indépendance en France et les harkis en particulier. Je fais ce grand détour parce qu'effectivement, cette année étant le 60e, quand j'étais sollicitée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux pouvoir faire ? J'ai aucun matériel à disposition neuf pour réfléchir à la question des harkis, des mémoires des harkis, si ce n'est que reprendre des choses que j'ai déjà faites. Et en fait, à ce moment-là, le rapport dont Philippe vient de parler, qui est le rapport de Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre, venait d'être rendu public. Et ce rapport-là posait un certain nombre de problèmes, enfin, en tout cas, au présent et de manière générale, mais je peux l'approprier, me pose un certain nombre de problèmes dans la manière dont les harkis sont présentés très rapidement, en passant un peu à côté de la problématique réelle qui est, à mon avis, celle de la trajectoire et de l'histoire de cet enrôlement supplétif. Et au niveau aussi des préconisations qui sont faites concernant cette population, qui sont, je crois que dans la cinquantaine de préconisations générales du rapport, celles qui visent, qui ciblent les harkis sont très, très, très réduites. Et enfin, elles se réduisent à une seule préconisation qui serait de faciliter les allers-retours entre la France et l'Algérie. Thématique qui, si on veut la considérer actuelle, on ne peut la considérer actuelle que du point de vue symbolique, parce que dans les faits, les anciens supplétifs, les membres de leur famille et surtout les descendants se rendent assez régulièrement en Algérie. Il y a eu des cas de refoulement dans les années 80, mais depuis, ça n'existe absolument plus. Et on peut même aller au-delà en disant qu'un certain nombre de descendants et des descendants de harkis ont pris la nationalité algérienne pour s'y rendre plus facilement sans avoir besoin de demander un visa. Donc disons qu'effectivement, le rapport Stora est un rapport très pauvre à ce sujet. Et ce n'est pas un hasard s'il est si pauvre sur la question des harkis. C'est parce qu'il entérine un discours qui est effectivement un discours officiel de la guerre, qui est à la fois un discours officiel et qui est un discours que Stora lui-même a produit à partir des années 90, au moment où ses travaux pionniers sur les récits et les transmissions de la guerre étaient publiés. Je pense au premier, La gangrène et l'oubli, de 91, qui est un discours de guerre de mémoire qui, pour le dire très rapidement, en fait, parcellise la mémoire et l'héritage de la colonisation et de la guerre d'indépendance algérienne, et fige un certain nombre de groupes qui inséraient des groupes porteurs, donc les pieds noirs, les harkis, les immigrés, les anciens combattants, dans un dispositif mémoriel tel pour lequel chaque groupe serait une entité homogène et chaque entité homogène aurait un même récit. Et donc, finalement, tous les harkis auraient le même discours mémoriel, tous les immigrés auraient le même discours mémoriel. Évidemment, ne sont pris que les discours mémoriaux les plus les plus figés, les plus médiatisés, les plus radicaux, qui assez souvent ne correspondent pas, par ailleurs, aux transmissions intrafamiliales des souvenirs et des expériences, faisant ainsi en sorte que la société française se retrouve divisée. Et un certain nombre de collectifs qui s'opposeraient les uns contre les autres. Donc ça, c'est un peu l'échafaudage général des visions de la mémoire collective algérienne en France, sur laquelle s'appuient assez systématiquement tous les présidents, dont Macron, et sur laquelle s'appuie donc cette logique et cette volonté de réconciliation des mémoires qui ne peut finalement se réaliser qu'en donnant pour acquis que ces mémoires-là sont en guerre, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de raison de les réconcilier. Donc c'est un discours qui, en fait, performe et produit ce qu'il veut lui-même déconstruire, ce qui est très problématique. Et dans ce contexte-là, les harkis, pour revenir à mon travail, ne sont pas tout simplement un cas, d'où le titre, enfin, l'exemple des harkis. J'aurais pu très bien choisir le cas des harkis, mais en fait, c'est plus qu'un cas. C'est un exemple dans le sens où ça a une portée paradigmatique parce que c'est un groupe qui était absolument inexistant en Algérie coloniale, qui ne naît que pendant la guerre, qui sert à désigner un statut administratif très précis, qui est le statut de supplétif de l'armée coloniale entre 56 et 61, Et qu'au moment où une partie de ces hommes sont rapatriés, entre guillemets, en France pour fuir les violences et les règlements de compte en Algérie, devient un statut identitaire et social. Et donc, ça devient un label, une étiquette pour désigner toute une population. Ce qui est absolument inédit, parce que ça ne touche que les harkis, pour le coup. C'est-à-dire les immigrés sont les héritiers de la main-d'œuvre coloniale, qu'on appelait aussi déjà immigrés en période coloniale. Les pieds noirs étaient ce peuple d'Européens d'Algérie dont on avait aussi toute une terminologie pour le désigner, tout aussi pour les juifs et les anciens combattants. Donc vraiment, les harkis, c'est une production postcoloniale qui sert en partie cette logique d'opposition et plus particulièrement d'opposition avec les immigrés. Du coup, on se retrouve avec une population anciennement colonisée qui est séparée en deux blocs distincts, et ces deux blocs-là sont opposés les uns aux autres, les immigrés d'un côté et les harkis de l'autre. Et pour justifier tout cela, on invente, au sens vraiment, on fabrique une rhétorique mémorielle qui est celle du fidèle, du français indigène, fidèle défenseur de la patrie, bon patriote et donc bon citoyen qui aurait pris les armes pour défendre l'Algérie française. Tout cela se retrouve dans le rapport Stora, dit d'une manière un peu légèrement plus nuancée et encore, c'est-à-dire que la thématique de la fidélité est très présente, la thématique du patriotisme, de la loyauté aussi, et se retrouve dans les discours présidentiels qui précèdent et qui succèdent le rapport Stora. Donc, du coup, voilà, pour revenir à cet article, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les harkis pouvaient être un vrai contre-exemple pour déconstruire, en quelque sorte, un contre-champ du rapport Stora, et donc pour venir à critiquer, au sens de la revue aussi Sensibilité, donc déconstruire cette notion de réconciliation et ses angles morts et ses enjeux. Et comment finalement cette notion-là ne peut exister que si on regarde ces mémoires-là avec un prisme colonial lui-même, c'est-à-dire un prisme qui ne déconstruit pas, qui ne défait pas le fondement des catégories, mais qui prend ces catégories-là pour acquises, qui ne les discute pas et qui les réjoue au présent. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce travail, en faisant tout un cheminement qui part de la déconstruction de la notion de réconciliation, me mobilisant Ricoeur, qui est un auteur qui est mobilisé par Stora, parce qu'il est mobilisé par le président, qui s'inspire de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli pour construire sa politique mémorielle, et qui en fait détourne complètement la lecture que Ricoeur fait de ce qui est possible de réconcilier ou pas, du pardon possible, qui est pris vraiment, enfin on a l'impression que la lecture, c'est une lecture hachée et posée par ici, là. Et donc, dans ma contribution, je reprends cette notion de réconciliation. J'ai la critique à l'aide aussi d'un certain nombre de contributions qui ont été faites en Algérie et en France et qui en montrent les biais. Et puis, je prends le cas des harkis donc, comme un exemple, mais au sens vraiment comme un cas exemplaire, paradigmatique, pour dire, mais finalement, si au lieu de rester sur cette lecture très mémorielle, mais au sens de très pratique mémorielle et très utilité mémorielle des harkis comme des fidèles défenseurs de la patrie, on va voir ce qu'il se passe dans les trajectoires et dans les vécus des gens. On peut peut-être écarter la notion de réconciliation et promouvoir une autre approche qui serait une approche du mémoire décoloniale qui défait cette lecture-là, qui défait cette assignation-là et qui permet de sortir de cette posture de guerre de mémoire versus réconciliation pour voir que finalement la trajectoire des harkis est une trajectoire beaucoup plus complexe, qui dit moins de la fidélité de la traîtrise que de la situation coloniale, et que le cœur du problème serait revenir à décrire vraiment ce qui s'est joué en colonie, l'injustice sur laquelle la justice substantielle, fondatrice, sur laquelle la colonie a bâti ses pratiques pendant 132 ans, ce qui permettrait de gérer autrement les enjeux et les enjeux mémoriaux et donc aussi les enjeux de commémoration. Voilà, donc c'était justement pour donner un exemple de cette contre-voie possible qui est, à partir d'un travail mené pendant 15 ans, en fait, relie une actualité, et la, enfin, relie au sens... je n'y avais pas pensé, mais je le pense là. Relie IS et relie IE, une actualité, la met et essaye, en tout cas, ou en tout cas propose de la mettre en perspective autrement. Voilà.
Je vais présenter rapidement ce numéro qui a la particularité en fait de s'appuyer sur un séminaire qui est dirigé à l'EHESS par Stéphane Audouin-Rousseau et Emmanuel Saint-Fucien, qui s'appelle aussi « La guerre transmise ». Et Stéphane Audouin-Rousseau et Emmanuel Saint-Fucien ont aussi coordonné le numéro. Mais séminaire qui a une longue histoire, qui était auparavant porté par Françoise Davoine et son mari Jean-Max Godillère. Donc, il date, qui a été lancé dans les années 70, hein, si je me... plus 80. Ouais. Et donc, il y avait... Dès le départ, pour objet de croiser, de faire se rencontrer, d'essayer de trouver un terrain d'interlocution, d'échange entre historiens principalement, mais aussi chercheurs de sciences sociales et spécialistes de la psyché. Alors, très rapidement, parce que je trouve que c'est intéressant de... s'arrêter sur l'article de Julien Blanc. Et là, la mémoire est un sujet majeur, collectif, individuel, mais c'est aussi justement l'absence de mémoire, c'est aussi les silences, là, les silences d'ailleurs dont Julien Blanc aussi parle dans son texte, qui sont... parce que c'est aussi ce que va chercher le psychanalyste, le fameux refoulé. Donc il y a tout ce... ces silences qui sont en creux et au cœur du numéro. Donc rapidement, il y a le bel article justement de Françoise Davoine qui raconte son parcours de chercheuse et comment elle a... Alors, je fais très, très vite, et Julien en parlera peut-être mieux que moi, comment, de sociologue, elle est passée aussi du côté de la psychanalyse, ce qui l'a amenée aussi à s'intéresser à l'histoire et aux histoires des affects. C'est un parcours d'engagement et de chercheur. Dans la... Il y a l'historienne Hélène Dumas, spécialiste du Rwanda, alors là, qui part d'un document bouleversant, là, de transmission d'une sœur allemande qui, au moment du massacre dans la ville où elle se trouvait, c'est un massacre, c'est plusieurs milliers de personnes, enfin, je ne sais plus si c'est 12 000 ou 15 000, 19 000, qui ont été massacrées en quelques jours. Elle a tout de suite, en fait, choisi de documenter ce qu'elle... Et donc là, ce sont non seulement ses récits, mais sont reproduits aussi. Quand ça s'est arrêté, elle est sortie avec un appareil photo, aussi par les photos, et avec ce réflexe qu'elle a eu, y compris de prendre une femme qui a été achevée après par les miliciens, de se dire, il faut que je prenne cette photo parce que sinon, on ne me croira pas. Enfin, il y a toujours aussi cette chose du témoignage. Henri Rousseau, grand historien, qui s'intéresse à la question taboue de la vengeance, et qui va aussi avec l'expérience de guerre et le travail du trauma. Un très beau texte de Pierre Judel-Lacombe sur, ben là, il revient sur son expérience là de retraducteur de l'Iliade. Voilà. Et dans la rubrique expérience, là où on est, ben, deux textes en fait, quelque part de transmission. Nicolas Werth qui parle de son père, Alexander Werth, qui était à la fois grand reporter et historien en URSS, à l'époque de l'URSS, et Julien Blanc, qui parle de Jean-Pierre Vernant, son grand-père. Et donc le titre du texte s'appelle « Jean-Pierre Vernant, la guerre, la résistance et moi ».
C'est un titre très modeste.
Voilà, voilà. Signé Julien Blanc. Et enfin, qui est, c'est pas parce qu'il est là, mais qui a cette, enfin, il est tenu de bout en bout par une pudeur et en même temps une grande intimité dans laquelle on rentre dans la relation et dans la la transmission, et un talent de narration, notamment dans les objets qui sont les petites scènes qui font monter cette question de transmission et votre propre parcours aussi. On a un photographe, en fait, parce que la transmission de la guerre, elle est aussi présente dans le sol, là, qui a fait tout un travail photo autour de sur les traces de la Grande Guerre. Donc là, on a un très beau portfolio ici. Voilà. Et
juste préciser un truc sur lui, sur Olivier Saint-Hilaire. C'est un photographe, mais qui est en train de faire une thèse, en fait, qui est devenu historien.
Ben oui.
Qui est en train de le devenir.
Qui est en train, avec ce travail.
Avec Stéphane de Marouzon, qui maintenant fait une thèse à partir de son travail. De son travail. Sur les traces.
J'ai l'impression aussi qu'en sciences sociales, là, ces croisements sont de plus en plus fréquents, de cinéastes qui vont vers la socio et qui s'appuient sur un travail. Et puis, pour finir, un très bel entretien qui avait eu lieu au séminaire avec Riti Pan, le cinéaste, un texte de Jean Rouault, une dispute plutôt des regards croisés sur le texte de Philippe Sands, Retour à Lemberg, et le Comment ça s'écrit est écrit par Janine Altounian, qui fait, qui est encore un. Qui fait partie de votre conseil scientifique. Mais parce qu'en fait, je trouve que l'entrée par un texte est bien laisser la parole à Julien pour savoir comment lui s'est inséré dans ce séminaire et dans l'écriture de ce texte.
Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, au point de départ, il y a effectivement ce séminaire qui est un séminaire assez étonnant, comme il s'en déroule quelques-uns à l'EHESS, puisque, tu l'as dit, c'est un séminaire que Stéphane Audouin-Rouzeau et Emmanuel Saint-Fucien, deux spécialistes à l'origine de la Première Guerre, de la Grande Guerre, ont souhaité poursuivre, reprendre, transformer aussi un peu, après celui qui était vraiment une institution à l'école, qui était le séminaire de Françoise Davoine et de Jean-Max Godillère, à la fois sociologue et analyste, qui était un séminaire très original parce qu'il rassemblait beaucoup de thérapeutes. Et effectivement, il essayait d'instaurer un dialogue alors autour de la question en particulier des traumatismes de guerre. Il essayait d'instaurer un dialogue entre les sciences de la psyché et voilà, et la sociologie et l'histoire. Et quand Jean-Max Godillard est décédé, Françoise Dahoine a décidé d'arrêter ce séminaire. Et donc, il a été repris à une sorte de passage de flambeau, vraiment. C'est comme ça qu'elle le présente elle-même à Stéphane Honoré-Rousseau et à Emmanuel Saint-Fucien, qui ont donc poursuivi ça avec un titre modifié. Mais quand même, on tourne autour des mêmes questions sur la guerre transmise. Et donc, dans ce séminaire, qui est un séminaire où il y a beaucoup de monde, voilà, ils expérimentent des choses et ils font venir ils invitent des gens à discuter. Et donc, au cœur de ce séminaire, il y a évidemment cette tentative dont tu parlais, dont témoigne ce numéro de dialogue entre la psychanalyse et l'histoire, qui est un dialogue qui ne va pas de soi, qui est complexe. Parfois... on utilise souvent des termes qui sont similaires, mais qui n'ont pas forcément le même sens. Le refoulement, le trauma, la mémoire, ça n'a pas forcément le même sens. Il y a un autre élément, mais bon, on pourra en reparler, mais qui est la question du rapport au temps. Voilà, l'inconscient est, d'une certaine manière, hors du temps, anhistorique. Alors que évidemment, l'histoire, c'est la réflexion sur le temps. Donc voilà, mais c'est un dialogue qui est intéressant. Et évidemment, quand ils invitent des gens à ce séminaire, ils poussent les intervenants à essayer de scruter le rapport personnel du chercheur ou de l'analyste d'ailleurs à son propre objet. Donc d'explorer aussi des ressorts qui sont des ressorts intimes autour d'une question qui est la question centrale de ce séminaire. Comment les expériences de guerre se transmettent-elles dans les après-guerres, se transmettent-elles de génération en génération? Comment la mémoire au fond se transmet ou ne se transmet pas? C'est ça la question, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce que, à la fois, la guerre fait aux êtres humains, ce que la guerre transforme, donc ce que la guerre fait à ceux qui l'ont vécu, qui la vivent, et puis à leurs descendants. Alors donc, évidemment, il s'intéresse, ce séminaire, à la question des transmissions. Je dis bien des transmissions parce que, bien sûr, les vecteurs de la transmission sont à la fois nombreux, très divers, et ça constitue en fait un territoire, un champ qui est immense, puisque ça touche aussi bien à la question du témoignage, de la parole des témoins, à la succession aussi des guerres et à la manière dont les guerres rejouent les unes sur les autres. Stéphane Audouin-Rousseau, l'autre jour, a utilisé l'expression de « guerre en chaîne ». Charles de Gaulle lui-même parlait d'une guerre de 30 ans. Enfin, il y a cette idée des guerres qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui rejouent les unes sur les autres. Évidemment, on pense aussi aux œuvres diverses, aux récits, aux romans, aux œuvres picturales. On pense au rôle de l'école, au musée. Au rôle aussi et au travail des historiens, bien sûr, et des journalistes, au silence. Et puis, évidemment, on pense aux mémoires familiales. Et moi, bon, c'est ce dernier point que j'ai essayé d'explorer avec cet article dont tu parlais, Chloé. Bon, c'était pas un exercice facile, évidemment. Parce que ça nécessitait de dévoiler une part d'intimité, mais il faut croire que j'en avais sans doute besoin, ou en tout cas que j'étais arrivé à un moment de ma vie où ça m'a paru normal et même probablement bénéfique pour moi de le faire. Je n'avais pas l'habitude de faire ça. J'avais parlé seulement deux fois en fait, de mon grand-père en public. La première fois, c'était à son enterrement. Donc là, c'était un truc un peu particulier. Et la deuxième fois, et c'est assez marrant, en fait, en y réfléchissant, c'était en Angleterre, dans un colloque, justement autour des questions de transmission familiale. Et c'est assez drôle, quand même, que j'ai fait ça en Angleterre, en anglais, d'ailleurs, donc, et devant des gens que je ne connaissais pas du tout. Donc, d'une certaine manière, ça me permettait de me sentir assez bien. Là, ce n'était pas du tout ça. Là, c'était devant des collègues Et c'était voilà, là où je travaille, puisque moi-même, je suis historien ici, enfin, à l'EHESS. Alors, voilà, donc dévoiler une part d'intimité, ça va pas de soi. Et il fallait essayer de trouver un... Enfin, avec toujours la même question, moi, qui est une question qui me taraude toujours. C'est-à-dire que en quoi ça peut intéresser les gens de parler de soi-même, enfin, ou de son histoire et d'une transmission qui s'est faite. Donc j'ai essayé de, à travers ce titre très 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 mégalo en fait, en y réfléchissant sur donc Jean-Pierre Vernant, la guerre, la résistance et moi, de voir comment cette transmission avait pu s'opérer. Alors donc mon grand-père Vernant, qui était anthropologue de la Grèce ancienne, il était aussi quelqu'un qui avait joué un rôle important dans la résistance. Et donc, je rappelle très brièvement son parcours. C'est un philosophe à l'origine qui était militant communiste, très jeune, orphelin de la Première Guerre. Son père est mort pendant la Première Guerre en 1915. Puis orphelin de mère, mais qui, dans les années 20, est un pacifiste absolument convaincu, et qui, dès 1940, s'engage en fait dans les débuts de la résistance du côté de Toulouse, où il se retrouve totalement par hasard, sans connaître personne. Et puis voilà, donc c'est un parcours qui commence tôt dans la résistance et qui s'achève à la libération, où il dirige les FFI de la région R4, donc c'est une résistance militaire. Il s'occupe de la libération, entre autres, de Toulouse en août 1944. Et j'essaye de voir dans cet article comment s'est opérée, en fait, cette transmission de cette expérience très singulière au sein d'une expérience de guerre qui est l'expérience résistante. Hein ? C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience particulière... à bien des égards. Alors, évidemment, pour reconstituer ça, je suis obligé de m'appuyer, et j'ai bien conscience de toutes les limites de l'exercice, sur mes propres souvenirs d'enfance, avec toute la part d'incertitude et d'imprécision que ça peut comporter, évidemment. Et si j'essaye de me souvenir, les éléments qui me reviennent sont très souvent liés à des objets, en fait, à des scènes, des photos que je trouve chez eux, puisque je passe beaucoup de temps chez mon grand-père, enfant, et donc des photos que je trouve dans une malle, son nom, un peu plus tard, dans des livres, des dédicaces aussi, une carte d'identité aussi, qui est particulière... qui est une carte d'identité de compagnon de la libération, puisqu'il a été fait compagnon de la libération. Donc une scène un jour avec un policier où il montre sa carte d'identité et où le policier se met au garde à vous devant lui et lui fait signe de passer alors que la rue est barrée. Et donc je suis en voiture avec lui et je comprends pas pourquoi, en fait. Donc j'imagine qu'il est en fait lui-même un policier, qu'il est même un chef de la police. Et je lui demande et il m'explique, en fait. Il m'explique qu'il est compagnon de la libération. Et il m'explique ce que c'est. Je ne comprends pas très bien, mais une autre scène aussi chez lui où je découvre planqué, mais mal planqué, dans sa bibliothèque, derrière des auteurs classiques, un son pistolet, en fait, un pistolet d'ordonnance, parce qu'il était officier avant la guerre. Donc il avait gardé ce qu'il appelait son flingue, en fait, qui était complètement hors d'usage, hein, qui ne risquait rien du tout. Et donc je vois ça chez lui, alors que ce n'est pas du tout quelqu'un qui aime les armes, ce n'est pas du tout quelqu'un qui aime la violence. Donc c'est assez curieux. Donc je lui demande tout de suite, je lui dis, mais tu as tué des gens Il me dit que non, qu'il n'a pas tué, qu'il a tué personne. Mais je ne le crois pas vraiment, je ne sais pas trop. Enfin, voilà. Donc ça se fait comme ça, ça se fait par des objets, et puis ça se fait évidemment après par des discussions et par la parole. Et ce qui me frappe, en fait, très vite, c'est au fond... bon, mon grand-père, il y avait deux personnalités. Il y avait la personnalité quand il y avait des gens. Alors il pouvait partir dans des récits et ça pouvait durer une heure et demie ou deux heures sans que ce soit d'ailleurs jamais lourd. mais où il pouvait tenir un auditoire vraiment en haleine par des récits. Et puis, il avait une autre facette, alors qu'il était plus avec nous et que moi, j'ai beaucoup expérimenté. C'était un homme qui parlait peu en même temps, qui pouvait vraiment se taire pendant très longtemps. Donc, et sur la question de la résistance, il était assez pudique, en fait, et il avait une parole très, très, très retenue. Il racontait peu de choses, parfois des anecdotes, mais jamais rien de spectaculaire. Et j'ai toujours eu le sentiment que c'était un monde assez impénétrable, au fond. Il parlait peu de ça et il écrivait peu là-dessus. Il a très peu écrit là-dessus. Bon, il n'avait pas une plume autobiographique. Il l'a même écrit noir sur blanc. Il dit « j'ai pas la plume autobiographique, ça me tomberait des mains si on me demandait de raconter ma vie ». Il écrit peu là-dessus, mais il y a des bribes, en fait, dans ses textes. Il y a des éléments qui apparaissent, des pointes qui évoquent ça. Donc, c'est une parole rare, alors même que ce sujet le passionnait. Par exemple, il recevait plein de livres de témoins, d'acteurs, d'historiens qui lui envoyaient des livres avec des dédicaces. Il les lisait très souvent, et chose qui m'est apparue après, il les mettait dans une bibliothèque qui se situait en dessous de chez lui, en fait, dans une pièce qui était une sorte qui était une grande chambre, et où il mettait tous les livres concernant la résistance. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas chez lui, ils étaient dans une pièce en dessous, et les deux communiquaient pas, enfin, fallait passer par l'escalier normal, quoi. Il se trouve que cette pièce, j'y ai habité beaucoup plus tard. Pendant un an, j'habitais en dessous de chez lui. Donc, et là, il y avait tous les livres sur la résistance. Et il y en avait plein. C'était une bibliothèque entière, quoi. Donc, il était presque comme une bibliothèque un peu cachée, d'une certaine manière. Enfin, c'est ce que je me suis dit après coup. Donc, il avait un vrai intérêt pour cette histoire. Mais il a très peu écrit là-dessus. En fait, il a écrit un seul vrai texte qui parle de ça, qui parle de cette expérience, et assez étonnamment, c'est dans son dernier livre. C'est dans son dernier livre, qu'il présente d'ailleurs comme tel, il dit, voilà, il y a un temps pour écrire, et puis il y a un temps pour se taire, et je suis arrivé à ce moment-là. C'est un livre qui date de 2004, qui s'appelle « La traversée des frontières », où il revient sur, dans un long texte original qu'il avait fait pour ce volume, qui s'appelle « Un temps insoumis ». Et là, oui, pour la première fois, il parle de la résistance, il écrit sur la résistance vraiment. Alors, je disais, il en parlait peu. Et ce qui m'a frappé assez vite, c'est qu'il y a des sujets dont il ne parlait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes autour de la résistance, concernant la résistance, dont il ne parlait pas, qui étaient des sortes d'angles morts. Et en particulier, il y en avait trois. Il y avait la libération, ce qui peut paraître quand même très étonnant, parce que c'est quand même l'objectif des résistants. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Donc la libération, il n'en parlait pas. L'épuration, il n'en parlait pas. Et puis, il y avait un autre sujet, c'était la mort des proches. La mort des proches, il pouvait pas en parler. Il commençait à l'évoquer et puis il poussait un long soupir. Et en particulier, il y avait un de ses élèves, donc il était prof, lui, de philo au lycée de garçons de Toulouse, qui s'appelle aujourd'hui le lycée Pierre de Fermat, qui est à côté du Capitole. Et il disait toujours que voilà, c'était une formidable couverture d'être enseignant, qui jouait un rôle quand il allait là-bas. Il n'était pas du tout, il parlait pas du tout à ses élèves d'opposition au régime de Vichy, pas du tout. Il jouait un peu à l'anarchiste, voilà. Et il avait des élèves, plusieurs élèves étaient venus le voir en lui disant est-ce que on voudrait faire de la résistance, est-ce que vous pouvez nous aider? Et à chaque fois, il les envoyait bouler. Il leur disait, mais ça va pas la tête, pour qui vous me prenez, vous mériteriez que j'aille vous dénoncer au proviseur ou aux autorités. Donc il donnait jamais suite. Et puis un jour, dans une réunion, on est en 44, hein, dans une réunion au sujet des maquis, donc des maquis autour de Toulouse, il tombe dans une réunion sur un de ses anciens élèves avec qui il avait des relations très proches, qui était un jeune type qui était catholique, très pratiquant. Mon grand-père étant totalement athée, anticlérical, bouffeur de curé et militant communiste. Donc, mais il y avait, entre eux, ils étaient extrêmement proches. JP, mon grand-père, ne savait pas du tout que ce type, qui s'appelait Claude Charvet, était dans la résistance. Et évidemment, Charvet ne le savait pas non plus. Et donc là, ils se retrouvent. Ils sont très heureux de se retrouver. Charvet connaît absolument tout de la vie de mon grand-père. Il connaît sa véritable identité, il connaît son adresse, il connaît sa femme, il connaît leur fille, ma mère, il connaît tout le monde. Il est déjà venu chez lui, enfin, etc. Et quelques semaines plus tard, Charvet se fait prendre, en fait. Il se fait prendre, il est torturé par la milice, affreusement torturé. Et mon grand-père ne change rien à ses habitudes, continue à dormir chez lui, parce qu'il est absolument convaincu que Charvet ne dira rien. Alors, Charvet, il n'en parle jamais. Il n'en parle pas. Il en a parlé une fois à Toulouse, quand il est retourné 50 ans plus tard. Il a été invité au lycée Fermat, où il est retourné, où il n'était jamais retourné depuis sa plongée dans la clandestinité en 1944. Et là, il a évoqué Charvet. Et je me souviens très bien de ce jour-là. Il a commencé à parler de lui, et puis il s'est arrêté net. Et il a poussé un long soupir. Donc c'était impossible pour lui d'évoquer ça. Alors, il y avait des silences, donc, et ces silences, ça fait penser effectivement à ce que Davoine et Gaudière expliquent dans leurs travaux. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut le taire, car on ne peut s'empêcher de le montrer. Ou encore, quand on ne peut pas parler, on ne peut pas non plus se taire. Donc, en fait, il l'exprime d'une autre manière. Et j'ai toujours été frappé par ces silences et par ces soupirs, et en particulier autour de la question de la mort de proches et du sentiment de culpabilité qui, lui, pouvait l'habiter. Alors, du coup, s'il ne peut pas parler de ces choses-là, même à ses proches ou à ses très proches, et même dans le cercle familial, à qui il pouvait parler de ça ? Eh ben, je pense que en fait, il pouvait parler de ça uniquement avec ses camarades, dans une forme d'entre-soi, où là, la mémoire et le souvenir peuvent ressurgir en certaines circonstances. Alors, par ailleurs, il y a évidemment, il en parle pas. Mais ça transparaît, à mon avis, enfin, je ne suis pas le seul à penser ça, dans son travail, c'est-à-dire dans son travail d'anthropologue de la Grèce ancienne. C'est-à-dire, si on regarde les sujets, certains des sujets sur lesquels il a travaillé, en particulier l'outrage aux cadavres, en particulier la belle mort autour d'Achille, il y a un certain nombre de sujets où, clairement, la guerre ou l'expérience de la guerre et de la résistance ne sont pas très loin, ne sont pas éloignées. Le masque, le double... Il y a le miroir, il y a beaucoup de choses comme ça où il y a des correspondances entre l'expérience résistante et le travail intellectuel. Alors après, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est verbalisé, et puis il y a évidemment ce qui est quand même transmis, même si ce n'est pas verbalisé. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été transmises de cette expérience, qu'il m'a transmises ou que j'ai, moi, captées. Et d'abord, une forme de peur, en fait, rétrospective, c'est-à-dire que de crainte de sa perte, de sa disparition. Et je sais très bien ce que ça signifie. Ça signifie, en fait, la peur de l'arrestation et la peur de l'outrage au corps, justement, c'est-à-dire la peur de la torture, en fait, la peur des mauvais traitements, qui est une question qui a été présente, en fait, pour moi. Et puis, il y a une autre transmission, une autre influence qui s'est faite, c'est que, en fait, moi, je suis devenu historien, et historien contemporanéiste, et je me suis mis à travailler sur l'occupation et sur la résistance. Donc, la résistance est devenue mon objet d'étude, en fait. Et alors, pendant très longtemps, ça va paraître complètement incroyable, Mais pendant très longtemps, je n'ai pas du tout fait le lien avec mon grand-père. Mais vraiment de bonne foi, ce qui est complètement idiot de ma part, évidemment. Mais j'ai assez longtemps nié ça. Et puis, bon, évidemment, aujourd'hui, je ne le nie pas du tout. Et non seulement je ne le nie pas, mais je me rends compte qu'en fait, sa fréquentation et les choses qu'il a pu me dire ou taire, me transmettre ou me cacher, d'une certaine manière, on nourrit en fait ma propre pratique historienne. Et je voudrais juste terminer là-dessus, c'est-à-dire que sur un certain nombre de thèmes, par exemple la notion de monde clandestin, de clandestinité, de masque, de vie double, sa fréquentation a attiré mon attention là-dessus. Sur aussi la notion, il disait beaucoup ça, je voyais bien dans les gens qui fréquentaient, c'était beaucoup d'anciens résistants, et je voyais bien que c'était des gens qui étaient très différents les uns des autres souvent. Il y avait à la fois un milieu et une certaine homogénéité, mais il y avait aussi des gens très variés, très différents, avec qui il avait un rapport, qui est un rapport d'égalité et un rapport d'une grande fraternité, d'une grande force. Et donc ça, cet aspect-là, l'idée que la résistance a attiré mon attention sur une réalité de la résistance, qui est que la résistance est aussi un creuset social, c'est-à-dire un moment, et il n'y en a pas tant que ça, au fond, où les lignes ont bougé, où des gens très différents avant-guerre, parfois qui ne se parlaient pas, ont pu se rencontrer. Et lui, il théorise ça. Il dit, voilà, la guerre, la résistance, ça m'a transformé. Avant-guerre, il y a des gens à qui je ne parlais pas. Et puis, je les ai retrouvés dans la résistance. Et même si on continue à ne pas être d'accord, en fait, ces gens-là, je les considère un peu comme faisant partie de ma famille. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'est construit. Donc, cette notion de creuset. Il y a un autre élément qui m'est apparu, c'est l'idée il insistait là-dessus, c'est ça que racontait en fait quand il racontait des choses sur la résistance, c'est souvent ça dont il parlait, c'est les interactions entre les résistants, les militants, les résistants actifs et la société ou un second cercle. Donc la résistance au fond comme la résistance comme dépassant la simple addition de ses membres. C'est-à-dire que la résistance, elle mord aussi, alors avec le temps, ça ne se fait pas tout de suite, mais elle mord aussi et de plus en plus sur les marges, sur la société, elle déborde de son lit. Et du coup, elle trouve des appuis. Et c'est ça qui explique aussi qu'à la fin, elle s'impose. Elle s'impose parce que, non pas parce que tout le monde est devenu résistant, mais elle s'impose parce que... parce qu'elle représente l'avenir, parce qu'elle est légitime et parce qu'elle bénéficie d'un soutien qui est un soutien fort dans la population. Et puis, un dernier point, et ça peut peut-être faire le lien avec l'Algérie, c'est que sa fréquentation m'a obligé à me poser assez vite, quand j'ai commencé à faire de la recherche, la question du témoin et du témoignage. C'est-à-dire, comment on fait avec un témoin ? Qu'est-ce qu'on éprouve avec un témoin, face à un témoin, et comment on fait, quoi ? Ce qui n'est pas une question simple. Et pour moi, elle s'est posée très clairement avec une... Et c'est pour ça que je fais le lien avec l'Algérie. Quand j'ai fait ma thèse sur la naissance de la résistance, sur les débuts de la résistance, il y a une femme que j'ai rencontrée beaucoup, que j'ai beaucoup fréquentée, que j'ai fréquenté, moi, sous l'angle de la résistance. Enfin, c'est ça qui m'intéressait. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment vu ou pas voulu voir son lien avec l'Algérie. C'est Germaine Tillon. Et évidemment, fréquenter quelqu'un comme ça, parce qu'elle, elle était... Donc Germaine Tillon, pourquoi Germaine Tillon ? Parce qu'elle était à l'origine d'une des premières organisations de résistance, mais surtout parce que après-guerre, elle s'est occupée de l'homologation de son organisation. Et donc, donc je l'ai beaucoup vue, je suis beaucoup allé chez elle, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et je pense que d'avoir dialogué avec mon grand-père sur ces questions-là, ça m'a aidé à mieux comprendre et à mieux appréhender d'une certaine façon le le témoin Germaine Tillon, dont je ne mesurais pas à ce moment-là, qui est, voilà, c'était compliqué, enfin très intéressant, mais pas si simple, dont je ne voyais pas à ce moment-là, effectivement, la part qui est fondamentale à l'Algérienne, évidemment. Enfin, ce n'était pas ça qui m'intéressait. Mais évidemment, il y a des correspondances très intéressantes. Enfin, voilà, puisque en fait, elle fait un travail d'ethnographe partout où elle passe, en fait. Elle est à la fois actrice et en même temps, elle est ethnographe. C'est-à-dire qu'elle a toujours un regard réflexif et elle l'a aussi bien dans l'Aurès dans les années 30 qu'ensuite, dans Caravansbrück, dans le camp, que pour la résistance, qu'après, quand il s'agit d'homologuer son organisation, ou quand, à partir de 1954, elle retourne en Algérie, et elle a toujours ce regard-là. Dedans, dehors. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci pour ces témoignages. Je parle de témoignages parce qu'on pourrait poser la question entre un rapport complètement intérieur et intime, votre présentation, Julien Blanc. Et moi, je voudrais poser une question, mais ce n'est peut-être pas l'objet. Je vais plutôt faire passer la parole mais à vous, Giulia Fabiano, pour dire comment en êtes-vous arrivé à considérer voilà, ce groupe qui n'en était pas un des Harkis. Ce sera peut-être pour une autre présentation s'il y a une question dans la salle ou deux. Ou alors, si vous voulez y répondre.
Je souris parce que il y a toujours une part de subjectif dans la recherche et on voit ces fils souvent après, a posteriori, en t'écoutant. J'ai repensé à un texte récent que j'ai lu récemment, pas du tout récent, mais que j'ai relu récemment de Loro. Sur vraiment l'anachronisme, quand les temps se percutent, ces télescopes et l'anachronisme comme moteur de la recherche, et cette idée d'effectivement de travailler sur elle en particulier sur la cité divisée parce qu'elle voulait travailler sur le présent en réalité, et c'est un peu ce qui revient de Vernon, ce que tu dis. Et en tout cas, ce qui me concerne effectivement, enfin, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je suis italienne, comme vous pouvez l'entendre, mon accent, duquel j'arrive absolument pas à me séparer. Heureusement. Et heureusement, en même temps, c'est quand même toujours une assignation à une étrangeté qui n'est pas toujours. Bref. Et en fait, j'ai été en France, en Erasmus, en 1999, donc il y a 24 ans. Et je voulais travailler, j'étais intéressée par les questions identitaires et mémorielles et de construction identitaire. Je voulais notamment travailler sur l'intégration de la Turquie à l'Union européenne et comment la Turquie allait devoir relire son histoire récente et moins récente pour pouvoir respecter en tout cas cette assignation européanaïste dans son parcours et dans ses valeurs. Et à ce moment-là, je suis invitée par une amie qui était une vieille actrice de théâtre boire un café à Saint-Germain où elle me pose la question. Elle me dit, mais enfin, je ne comprends pas très bien. Les historiens, je vois bien ce qu'ils font, mais les anthropologues, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est l'anthropologie? Moi, j'étais en troisième année de fac. Et donc, j'essaie une réponse qui était ma manière de voir l'anthropologie à cette époque-là, qui n'a pas vraiment énormément changé, qui était cette manière, cet intérêt pour la diversité, pour la pluralité, pour la complexité, dans une pensée qui, sans se vouloir nécessairement universelle, essayait quand même d'englober l'humain en tant que tel. Et elle me dit, mais j'ai tout compris, c'est comme les Harkis qui sont français mais musulmans. Et moi, j'ai rien compris sur ça, parce que je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Et j'ai dit, mais de quoi tu me parles? Mais qui c'est le Harki? Ça veut dire quoi, français et musulman? Et en fait, par ailleurs, après, j'apprendrai que une des expressions pour les désigner, c'est justement français musulman ou français musulman rapatrié, qui est une expression d'origine dont la généalogie coloniale est clairement établie. Et qui après a complètement viré dans les années 2000 et qui a servi depuis aujourd'hui, sert à désigner toute une autre population. Et c'est intéressant parce que là aussi, dans la destination de cette toute autre population, dans cette assignation à la, aux marges de cette population française de culte musulman, de confession musulmane, on n'y voit pas, mais on doit y lire une généalogie coloniale qui est passée par la marginalisation de Harki aux frontières de la nation française. Et en tout cas, c'est comme ça que j'en ai entendu parler la première fois, comme une espèce de, encore une fois, de paradigme de ce que c'était l'anthropologie. Et je me suis dit, mais c'est totalement passionnant. Si l'anthropologie, c'est comme les Harki qui sont français mais musulmans, j'y vais. Et voilà. Et je suis arrivée après à l'Algérie par les Harki, en fait. Donc vraiment par les marges, des marges.
Une question dans la salle. Bonsoir, monsieur.
C'est moins une question d'abord que des remerciements, parce que je trouvais que vos présentations croisées, pas tout à fait croisées, c'est un peu comme les disputes, ça n'arrive pas à se croiser. Parfois, ça se juxtapose, étaient tout à fait passionnantes. C'est vrai que le témoignage de Julien Blanc était magnifique, je précise. Et simplement, vous savez que je ne suis pas tout à fait un nouveau-né en matière de revue, mais l'une et l'autre revue me bluffent, quoi. Je trouve qu'il y a un travail éditorial absolument admirable. Alors, presque d'un côté artisanal, très artisanal, du côté de Philippe, beaucoup plus professionnel, avec une structure professionnelle du côté d'Anna Moza. Mais à chaque fois, je me demande, mais comment font-ils? Parce que j'imagine la somme de travail que ça représente. Et surtout, une des vertus de vos deux revues, mais de manière différente, c'est qu'elles savent conjuguer des langues diverses. En tout cas, des modes scripturaux, si je puis dire, divers, aussi bien académiques, moins du côté de Philippe. C'est un choix que tu affirmes, beaucoup plus académique, semble-t-il, du côté de sensibilité. Mais j'imagine que l'une et l'autre, vous avez souci, vu l'apparat que présentent vos revues, enfin, et le coût induit par cet apparat, malgré tout, de vous adresser à un public un peu plus large qu'un pur public, excusez-moi, j'enlève, qu'un public académique. Donc, est-ce que vous êtes sensible, justement, à une écriture qui puisse être abordée par un public plus large qu'un public de spécialistes? Je l'imagine, vu le déroulé magnifique de vos deux revues. Et donc, j'ai envie de demander, surtout, là, j'aurais dit à Chloé, comme tu te nourris beaucoup de réflexions universitaires. Elle est faite beaucoup pensée par des universitaires. D'abord, est-ce que tu as barre sur quelque chose? Est-ce que c'est toi qui as le dernier mot? Ou est-ce que finalement, ce sont tes contributeurs, rédacteurs en chef qui ont le dernier mot? Est-ce qu'il y a des limites à leur jargon, je le mets sans, et à leur capacité de s'étendre plus que de raison? Et je dirais la même chose je demanderais un peu la même chose à Philippe, quoi. Quelle est ta maîtrise finale de ce que tu veux obtenir, tu peux obtenir? Parce que je précise, il y a des revues faites plus tout à fait à l'étage, mais maintenant un peu plus loin, qui ont parfois, puisqu'on a rendu hommage récemment à Jean Jamin, l'ex-directeur de l'Homme, et je me souviens de ce numéro mémorable qu'il avait fait, mémorable, mais j'imagine pour les finances de l'école, devait être mémorable aussi, ce numéro sur jazz et anthropologie, qui faisait, je crois, 500 pages. Donc, j'avais demandé à Christophe Prochasson, à l'époque, comment fais-tu pour diriger Jean Jamin dans son exigence éditoriale? Et je crois qu'il avait fait un silence un peu comme ceux de Jean-Pierre Vernant.
Avec un soupir. Alors, pour te répondre, alors la particularité pour moi là, de mon rôle pour la revue, c'est que j'échange avec le comité de rédaction et le conseil scientifique sur les grands thèmes. Après, le comité de rédaction et ou les coordinateurs de numéros, quand il y en a, commandent la plupart des textes. Donc, c'est eux qui ont la première lecture sur le fond. Alors, c'est amusant parce que Au contraire, parfois, c'est plus compliqué entre pairs, P-A-I-R-S, de se... parfois, le dialogue ne s'arrête. Et donc, il y a quelques fois où, au contraire, c'est ma lecture, moi, en général, ou celle de Marie-Pierre, on est plutôt là sur l'écriture, ça a été validé sur le fond, on a plus trop de... On peut suggérer des coupes ou des commentaires, enfin voilà, on est... Mais on... Sauf si le comité de rédaction nous dit « Écoute, là, en fait, on n'arrive pas, franchement, ça ne va pas. Est-ce que tu peux dire... » Et là, on dit « C'est l'éditrice. » Donc, c'est bien utile d'avoir une autre casquette et d'être un peu en dehors. Donc, ça, c'est arrivé. Après, c'est sur les apports, peut-être justement hors stricte université où je peux avoir le temps de proposer des choses... qu'il s'agisse de photographie, d'illustration, dans le numéro. Donc, de leur proposer. Et sur. Là, par exemple, là, je leur ai fixé une limite qui est 176 pages, parce qu'on, dès qu'on a même 16 pages de plus, question que les. Éditeurs de revues, on passe en tranche de poids en courrier postal dans la tranche 500 1 kg. Donc sur les deux derniers numéros, c'est pas le même budget du tout sur les envois. Et ça, c'est bon. Ça, j'y avais pas. C'est le premier numéro qu'on a fait plus épais. Je me suis dit, oula, faut qu'on fasse attention. Donc là, on a. Oui, parce que peut-être pour celles et ceux qui connaissent moins bien la boutique financière, donc les frais postaux coûtent très cher. Il n'y a pas de tarif livre en dehors de. Pour l'étranger. Alors, ça coûte moins cher d'envoyer une revue ou un livre à Bruxelles, à New York, qu'à Marseille, avec un tarif livres et brochures. Et ça arrive, moi, j'ai à peu près dans les mêmes temps. Enfin, donc, c'est complet. Enfin, bon, c'est un combat de longue haleine et qui est régulièrement remis. Perdu, oui. On y recroyait, mais bon, c'est perdu. Et par ailleurs, vient compliquer encore plus la donne pour les éditeurs de livres et de revues, et qui ne vous aura pas échappé, d'ailleurs il y a des articles, c'est la hausse des matières premières, des prix des matières premières, la hausse des carburants qui impacte le prix des coûts de transport et le papier. Donc le papier, pour vous donner un exemple concret, donc celui-ci, 176 pages imprimées en décembre dernier, et celui-ci donc, qui a été imprimé pendant l'été 2021, qui avait donc 192 pages, donc celui-là est censé coûter moins cher puisqu'il a moins de pages, et il a coûté plus cher, voilà. Donc, c'est vrai que parce que les imprimeurs n'ont pas... Ils ont commencé à répercuter les hausses pour eux, qu'ils ont absorbées jusqu'à l'été sur les devis de l'automne. Et donc, on est un peu en panique. Nous, on a augmenté de 1 euro, la revue, en se disant, bon, de toute façon... alors, 23 et 22, ceux d'avant.
Le numéro ordinaire coûte 18, et celui-ci coûte 25, mais le numéro ordinaire fait 128 pages, celui-ci en fait 232.
On peut les acheter, là, ou pas ?
Oui, vous pouvez acheter des revues, vous pouvez, devoir...
Ça, je pense que c'est un paramètre... important et moi qui me Dans la pratique même pour les livres, parce que là, je... Alors, soit on accepte que le livre devienne un objet de luxe, enfin, entre guillemets, mais là, moi, y a des livres que j'ai passés à 27 en me disant, en fait, si on veut s'en sortir, voilà.
Et oui, nous finissons sur cette note. Oui. Avant que Philippe souhaites-tu ajouter quelque chose à cette soirée qui va se terminer ? Dans le micro, s'il te plaît.
Je pense que le problème, pour mémoire en jeu, c'est comment en fait, moi je suis aussi universitaire, ça devient très très vite une usine à gaz qui est prête de l'explosion, parce que entre les disciplines, puisque c'est un des enjeux, arriver à montrer un certain nombre d'éléments à corriger à un collègue qui va être d'un autre champ disciplinaire est généralement vécu comme une poussée d'urticaire immédiate. Et donc, voilà. Donc, il y a régulièrement des champs électriques qui font la vie de la revue. Voilà. Donc.
Eh bien, sur cette image, si l'on peut dire, des champs électriques.
Je vais juste rajouter une chose. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, je veux dire, le travail que vous faites, c'est assez ahurissant. C'est en termes de relecture, de précision. Enfin, vraiment, moi, je suis pas le seul. Hein. On en a discuté à plusieurs. C'est vrai que vous avez une équipe avec le comité de lecture. Enfin, ouais, Clémentine, Hervé, Mazurel, Clémentine Vidal-Naquet, et puis là, Emmanuel Saint-Fucien et Audouin. Mais vraiment, c'est assez impressionnant hein, comme travail de. Et vous obligez à ce qu'on retravaille. Enfin, et c'est super parce que du coup, voilà. Et le soin que vous mettez, enfin, c'est vraiment hyper précieux, quoi. Franchement, j'étais impressionné par ça.
Et ce n'est pas seulement parce que vous écrivez dans cette belle revue que je vous invite à acheter. C'est un acte de résistance d'une certaine façon. Je vous remercie de cette belle soirée. Merci d'être venu.